Laudetur Jesus Christus.
L'entrée partielle des marchandises prilées dans la bande de Gaza, à nouveau autorisée, annonce Israël. Cela concerne les produits alimentaires de base et des articles d'hygiène. Apporter un cadre légal à la dissolution du PKK pour apaiser les relations avec les Kurdes, une commission parlementaire est dépêchée. Premier geste concret de la part des autorités turques. 30 ans après l'opération Tempête victorieuse pour la Croatie contre la Serbie, le passé divise toujours les deux pays. De grandes commémorations militaires ont lieu à Zagreb. Dans notre dossier, entretien avec le cardinal Ambongo, président des conférences épiscopales d'Afrique. Après leur assemblée générale, l'archevêque de Kinshasa revient sur la vision de l'Église pour le continent ces 25 prochaines années.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. Plus de 650 jours de guerre au Proche-Orient. Le Conseil de sécurité de l'ONU annonce une réunion d'urgence ce mardi sur la question des otages à Gaza, pendant que le Premier ministre israélien va lui donner aujourd'hui ses instructions à l'armée pour la poursuite du conflit avec le Hamas. La pression s'accentue pourtant sur son gouvernement afin d'y mettre un terme. 600 anciens responsables des services de renseignement intérieur et extérieur israéliens en appellent aux États-Unis pour faire taire les armes dans l'enclave palestinienne. De leur côté, les Palestiniens d'Israël et de Cisjordanie occupée se mobilisent à leur niveau depuis 10 jours pour exiger la fin des bombardements et l'ouverture de tous les passages terrestres afin de faire entrer continuellement et sans restriction l'aide humanitaire. Valérie Ferrand.
Des deux côtés de la ligne verte, les Palestiniens se mobilisent désormais chaque jour, notamment ceux citoyens d'Israël. La situation à Gaza touche en effet directement les Palestiniens d'Israël, car elle les renvoie à l'expulsion massive de leur peuple lors de la Nakba de 1948. Tous sont de la famille dans la bande de Gaza, devenue le refuge depuis 1948 de toute une partie des habitants et de leurs descendants, notamment des villes de Jaffa, Ramle et Lyd, dans la région de Tel Aviv, comme Hourieh, qui communique au quotidien avec un de ses oncles.
Mon oncle Abou Naël, dont 2 fils ont été tués, me demande comment je vais, comment vont mes parents. C'est lui qui me demande comment on va. Cela me crève le cœur quand je l'entends me dire comment ça va.
Des manifestations quotidiennes ont également lieu en Cisjordanie occupée, dans la ville d'El Biré qui jouxte Ramallah. Des militants ont entrepris une grève de la faim depuis une semaine pour sensibiliser encore plus l'opinion publique arabe et mondiale, l'heure pour eux n'étant pas au désespoir, mais plus que jamais à l'action. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et on apprend donc ce matin qu'Israël annonce réautoriser l'entrée partielle de marchandises privées dans Gaza. Un geste de solidarité remarqué, 25 000 dollars, c'est le montant que donne le puissant comité des Juifs américains au diocèse catholique de New York. La somme doit contribuer aux réparations de la paroisse latine de la Sainte Famille à Gaza, endommagée par une attaque israélienne le mois dernier. Alliés du Hamas, les Houthis du Yémen ont à nouveau tiré un missile sur l'État hébreu ce matin, missile intercepté par l'armée. Et c'est au large des côtes yéménites qu'une embarcation a fait naufrage dimanche. Au moins 76 migrants, en majorité éthiopiens, ont péri. Dans un télégramme adressé au nonce apostolique au Yémen ce lundi, le pape exprime sa profonde tristesse et prie pour les victimes. C'est une étape importante dans le processus de paix en cours entre les autorités turques et le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Une commission parlementaire spéciale entame aujourd'hui ses travaux pour apporter un cadre légal à la dissolution et au désarmement annoncé du PKK. Le mouvement politique kurde présente ses efforts législatifs comme nécessaires pour parvenir à la paix après un demi-siècle de guerre. À Ankara, Anandlower.
Depuis que le PKK a annoncé en mai son intention de rendre les armes, c'est le premier geste concret de la part des autorités turques. Cette commission parlementaire, composée de députés de l'Alliance au pouvoir et de l'opposition, a une mission prioritaire, proposer un cadre légal à ce désarmement et à la question sensible du sort des milliers de combattants du PKK. Sa création était une demande d'Abdullah Öcalan, le fondateur et chef emprisonné du PKK, qui avait appelé en février à la dissolution du groupe et à la fin de la lutte armée. S'ils ont répondu positivement à cet appel, les cadres du PKK dans le nord de l'Irak ont aussi fait savoir qu'il n'y aurait pas de désarmement sans garantie légale. Le travail de cette commission sera donc décisif pour la réussite du processus. Les médias turcs gouvernementaux avancent que ses membres auront notamment pour tâche d'élaborer une loi permettant de réintégrer à la société les anciens membres du PKK qui n'ont pas commis de crime en abandonnant les poursuites pour appartenance à une organisation terroriste. L'opposition demande toutefois un mandat plus large et soutient que cette commission devra proposer des réformes démocratiques au profit de toute la société. À Ankara, Anne-Joie pour Radio Vatican.
Une suspension de la délivrance de visas américains aux citoyens du Burundi. L'annonce a été faite ce lundi par les États-Unis, invoquant des violations répétées. Cet État de l'Afrique des Grands Lacs rejoint une cohorte de 12 pays interdits d'entrer sur le sol américain. Et c'est au Burundi que se trouve actuellement le cardinal canadien Michael Czerny. Le préfet jésuite du Dicaster pour le service du développement humain intégral a notamment célébré une messe avec des réfugiés. Au Soudan, la guerre entre les deux généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Dagalo, surnommé Emeti, continue de faire rage depuis plus de 2 ans, maintenant hors des radars internationaux. La situation des habitants de El Fasher, la capitale du nord Darfour, est particulièrement catastrophique à cause du siège imposé par les hommes de Emeti, les FSR, depuis 15 mois. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier à ce sujet. Notre correspondante Augustine Passy fait le point sur la situation humanitaire dans le pays.
Ces 2 années de guerre ont entraîné la plus grave crise humanitaire de la planète, selon l'ONU. L'instance a alerté le 30 juillet sur le terrible sort des riverains d'El Fasher. Le communiqué évoque la faim et la malnutrition généralisée qui auraient causé plusieurs décès, tandis que les survivants se tournent vers des résidus d'arachide et de sésame, habituellement destinés aux animaux. Quelques jours plus tôt, le Conseil de coordination des salles d'intervention d'urgence, un réseau de bénévoles qui soutient les populations privées d'accès humanitaire, mettait en garde contre des niveaux d'insécurité alimentaire ayant atteint un seuil sans précédent. Les conditions de vie sont également désastreuses dans les camps de déplacés entourant El Fasher, où la famine a été déclarée dès août 2024. Dans la localité de Tawila, à 70 km à l'est d'El Fasher, les organisations humanitaires peinent à endiguer l'épidémie de choléra, précise le rapport de l'ONU. Le nouveau conseil présidentiel, fraîchement formé par une alliance dirigée par Emeti, assure vouloir venir en aide aux populations victimes du conflit. Mais en attendant, ses opposants accusent les FSR de prendre les civils d'El Fasher en otage. Augustine Passy pour Radio Vatican.
La frayeur est montée d'un cran hier à Port-au-Prince après des échanges de tirs répétés dans la capitale haïtienne. Les États-Unis ont bouclé leur ambassade. L'organisation humanitaire Nos Petits Frères et Sœurs, qui pilote un orphelinat et une autre association chrétienne, la Fondation Saint-Luc, annonce fermer l'ensemble des institutions du réseau d'hôpitaux face à cette violence qu'il qualifie d'intolérable et jusqu'à la libération des personnes enlevées sans condition. Une missionnaire irlandaise a été séquestrée par un commando armé dans la nuit du 4 août, à savoir que 1520 personnes ont été tuées sur cette île des Caraïbes entre avril et juin. La Croatie commémore les 30 ans de l'offensive victorieuse qui mit fin au combat de la guerre d'indépendance en 1995, mais qui expulsa de leur foyer des centaines de milliers de civils serbes. À Zagreb et à Belgrade, les mémoires conflictuelles de cet événement sont toujours mobilisées pour entretenir une tension régionale qui perdure. En Serbie, la correspondance de Laurent Rouy.
Tempête. Oluja en serbo-croate, c'est le nom de l'opération militaire qui mit fin en un peu plus de 3 jours à la guerre en Croatie en 1995. Une victoire éclatante pour les Croates qui reprennent la ville stratégique de Knin, mais vide la région de 200 000 civils serbes dont bien peu sont à ce jour rentrés chez eux. L'opération militaire cause aussi la mort de 1200 civils, ce qui vaudra à 3 généraux croates d'être lourdement condamnés pour crimes de guerre au tribunal de La Haye en 2011, avant d'être spectaculairement innocentés en appel en 2012. Pour les Croates, Oluja est la bataille qui donne l'indépendance au pays. Pour les Serbes, c'est un crime de guerre impuni. Ces deux narratifs irréconciliables sont rappelés par les gouvernements des deux pays, alors qu'à Zagreb comme à Belgrade, les partis au pouvoir sont les héritiers directs des dirigeants du temps de guerre. Pour l'ONG croate Document, aucun des deux pays n'est prêt pour la réconciliation ou pour faire face aux événements du passé. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican.
En Bosnie-Herzégovine, le pape Léon XIV encourage les participants au Festival des Jeunes de Medjugorje qui a lieu jusqu'à vendredi dans ce sanctuaire marial. Dans un message paru hier soir, l'évêque de Rome leur rappelle qu'aucun algorithme ne pourra jamais remplacer une étreinte, un regard, une véritable rencontre, ni avec Dieu, les amis ou la famille. Le pape les exhorte à être d'intrépides apôtres de l'Évangile. La 20e assemblée du CEAM, le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, s'est achevée ce lundi à Kigali, au Rwanda. Pendant 5 jours, les évêques du continent ont élaboré une vision de l'Église en Afrique pour les 25 prochaines années. Réconciliation, pardon, paix apparaissent au centre. Mais les églises catholiques en Afrique recommandent également aux responsables politiques locaux d'avoir à cœur le souci des peuples qu'ils gouvernent, de protéger les plus faibles en promouvant le dialogue. Les plus de 200 délégués, cardinaux, évêques, prêtres, aux religieux présents ont donc dressé un constat en demi-teinte de la situation du continent qui varie du meilleur au pire selon les pays, d'où la nécessité d'une église enracinée dans les préoccupations de ses fidèles, comme le souligne le cardinal Fridolin Ambongo, président de ce symposium d'évêques.
Nous étions presque 235 participants. C'est aussi l'assemblée qui a comporté plus de participants. Nous étions ici pour définir la vision de CEAM. Nous avons d'abord fait l'analyse un peu de la situation socio-pastorale de l'Afrique et en regardant la réalité de l'Afrique, nous voyons il y a des parties du continent qui émergent où les choses vont dans la bonne direction, mais dans beaucoup d'autres endroits, c'est la descente aux enfers pour le peuple avec des conflits, des guerres, des coups d'État, des catastrophes naturelles. Et une bonne partie de la jeunesse africaine qui a tendance à abandonner le continent pour aller ailleurs, croyant qu'ailleurs c'est mieux. Et parfois, il y en a qui terminent leur vie dans le désert ou dans la mer Méditerranée.
À quoi est-ce que tout cela vous fait penser?
Nous pensons que tous ces éléments nous renvoient à notre propre responsabilité au niveau de l'Afrique. Et particulièrement la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir. Et notre travail a consisté d'abord à prendre conscience de cette réalité et de nous remettre en question chacun dans la sphère de sa responsabilité pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de cette crise à répétition en Afrique. Et c'est au milieu de cet effort que le Christ nous a apparu comme la source d'espérance, comme la lumière qui peut nous indiquer le chemin. Le Christ qui a passé tout son temps à relever l'être humain, à réconcilier les êtres humains là où il y a des guerres, des conflits. Et nous pensons que si nous restons avec nos regards braqués sur cet exemple du Christ, l'Église catholique d'Afrique peut aussi à son tour devenir source d'espérance, de réconciliation et de paix pour le peuple africain.
De quelle façon l'Église en Afrique compte-t-elle s'y prendre concrètement pour être témoin de la réconciliation?
Le premier travail de l'Église, c'est l'évangélisation en profondeur. Un peuple évangélisé, transformé de l'intérieur, qui a compris qu'il doit changer, ne peut que relever la nation. Nous voyons que dans le continent, il y a beaucoup de catholiques baptisés, mais parfois, quand ils sont dans les affaires ou quand ils sont au pouvoir ou même dans le monde religieux, on ne les reconnaît plus. Et c'est là que nous devons prendre conscience que nous devons changer. Mais le deuxième volet, c'est aussi le travail que l'Église elle-même doit faire en termes d'actions concrètes, d'initiatives concrètes pour la réconciliation entre le peuple, amener les communautés à se parler là où les gens ne se parlent pas.
Aviez-vous défini quelques stratégies pour arriver à cette fin?
L'exemple qui a été cité de façon concrète à la plénière, c'est l'initiative pour la paix et le mieux vivre ensemble, prise ensemble avec le protestant. Et cette initiative a été soutenue par l'ensemble des participants comme un exemple qu'on peut répliquer dans d'autres situations, naturellement en le modifiant.
La 20e assemblée du CEAM s'est clôturée dimanche par une célébration eucharistique, notamment avec les jeunes. Est-ce que vous avez un message à adresser à la jeunesse africaine?
C'est ne jamais perdre l'espérance. Et de cette espérance dans le Seigneur peut sortir l'énergie nécessaire pour affronter tous les problèmes qui pourront se présenter devant les jeunes.
Interrogé par Jean-Paul Kamba, le cardinal Ambongo, président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, également archevêque de Kinshasa, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci de votre écoute et fidélité à notre antenne. Prochaine édition, ce sera à 13h en direct de Rome. Très belle journée.